Place Publique.
Dans Place Publique ce soir, nous verrons que la prévention du suicide auprès des jeunes porte ses fruits et qu'il est possible d'éviter des actes désespérés. On rappelle, en Suisse, un jeune se donne la mort tous les 3 jours. Louis Agassiz n'est plus en odeur de sainteté à Neuchâtel. Ce scientifique controversé du 19e siècle, ardent promoteur du racisme scientifique, ne prêtera plus son nom à l'espace situé à la Faculté des Lettres, rebaptisé au nom de Thilo Frey, première conseillère nationale neuchâteloise élue sous la coupole. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Nous recevons pour la commenter l'historien Jean-Pierre Gelmini. Nous parlerons aussi de désobéissance civile avec un pasteur qui a beaucoup fait parler de lui dans la presse romande ces derniers jours. Il est venu en aide à un réfugié en fin de droit. Il a été condamné pour cela. Norbert Vallet entend bien faire opposition jusqu'à la plus haute juridiction et faire triompher son éthique chrétienne.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. C'était ce lundi la journée mondiale de prévention du suicide, l'occasion pour l'association Stop Suicide de dévoiler les premiers résultats d'une vaste campagne nationale de prévention destinée aux jeunes qui a été lancée au mois de juin. Il ressort notamment que durant la campagne d'affichage et de posts publiés sur les réseaux sociaux, les appels aux 147 lignes d'aide pour les jeunes mises en place par Pro Juventute, ces appels ont été 5 fois plus nombreux que la normale en Suisse romande. Mais peut-on efficacement prévenir le suicide ? Est-ce que la société peut avoir une emprise sur l'un des actes les plus individuels qui soient ? On écoute la réponse de Stéphane Saillant, il est médecin psychiatre, médecin-chef du département de psychiatrie générale et de liaison au centre neuchâtelois de psychiatrie.
Alors oui, on a des mesures de prévention qui sont très efficaces, qui sont prouvées comme étant efficaces. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations qui sont, par exemple, de pouvoir traiter de manière précoce les troubles psychiques, de favoriser l'accès aux soins, de responsabiliser aussi les médias, au fond, par rapport à la question de la prévention du suicide. Avoir des campagnes aussi sur la prévention de l'alcool, de la consommation d'alcool, et puis limiter l'accès aux moyens létaux.
L'alcool joue un rôle important ?
L'alcool peut jouer un rôle important chez les adolescents comme dans la population adulte parce qu'il a un effet désinhibant au fond de la conduite suicidaire. Donc il peut favoriser une conduite suicidaire et ça on le sait, donc c'est un des moyens de prévention qui est ciblé.
Un jeune se donne la mort en Suisse tous les 3 jours, c'est dire que c'est un phénomène important. Pourquoi cette catégorie de population est particulièrement vulnérable ?
L'adolescence est un moment de la vie qui est clé puisque c'est le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Qui comprend une quête identitaire qui n'est pas simple à mener. C'est un âge où on découvre aussi l'amour, où on découvre son identité, également sexuelle, et puis du coup, ça provoque une fragilité pour l'adolescent. Ce qui ne veut pas dire que tous les adolescents vont faire un tel geste, mais dans ce contexte-là, c'est quand même assez fréquent. Donc les idées suicidaires chez les adolescents, c'est fréquent, c'est très fréquent. Il y a plus de tentatives de suicide chez les adolescents. Donc c'est quelque chose, enfin on sait que c'est un groupe à risque auprès duquel il faut intervenir et auquel on doit avoir un œil vigilant.
Est-ce qu'il y a toujours un signe précurseur, des indices qui permettent à l'entourage de s'en rendre compte ou pas forcément ?
Alors malheureusement pas. C'est-à-dire que souvent c'est un geste très impulsif, donc ça peut venir d'un moment à l'autre, en fonction de ce qui se passe dans la tête de l'adolescent. Et puis souvent, les adolescents ne se confient pas à leur entourage ou à leurs parents ou à leurs profs, ou etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué puisqu'ils en parlent, mais peut-être pas beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est à nous aussi, en tant que professionnels du champ de la santé mentale ou professionnels tout court, ça peut être des éducateurs, des infirmiers, à être attentifs et à pouvoir évoquer ce sujet. Donc avec les adolescents.
D'où la nécessité d'une campagne de prévention qui incite les adolescents eux-mêmes à se préoccuper de leur état ou à parler.
Oui, et puis je crois qu'il faut pouvoir leur permettre de dire les choses. En fait, un des messages, c'est qu'on ose en parler, c'est qu'ils peuvent en parler. C'est très fréquent, les idées suicidaires, chez les jeunes et chez les adolescents, en tout cas dans la tranche d'âge entre 15 et 30 ans. Donc, c'est plutôt une difficulté que nous, on a de pouvoir aborder ça, au fond, avec eux. Mais pour un adolescent, ça fait partie d'une recherche de sens et d'une recherche identitaire. Donc, on doit oser en parler, rompre la glace. Ce qui ne veut pas dire qu'on en parle de toutes les manières et n'importe comment. On doit en parler dans un certain cadre, avec une certaine bienveillance, mais il faut oser en parler et rompre l'isolement dont l'adolescent se sent souvent victime.
On lit qu'il ne faut pas juger si d'aventure on parle de suicide avec un jeune qui est concerné. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Juger, c'est porter un jugement moral. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de souffrance et de quelque chose qui est ressenti sur le plan émotionnel. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir être à l'écoute, mais une écoute neutre, de pouvoir aborder les choses et de pouvoir comprendre que ça puisse arriver. Au fond, c'est ça qui est important. Donc dire à un adolescent, il ne faut pas faire une bêtise quand il veut faire un geste suicidaire, c'est un jugement moral qui n'a pas beaucoup de sens et qui ne va pas l'encourager finalement à pouvoir s'exprimer sur sa propre souffrance.
Une écoute bienveillante, voilà un conseil pour l'entourage, mais comment réagir si on entend parler de suicide, si un jeune se confie à nous et nous fait part de ses idées, de ses dessins, comment réagir ?
Toute conduite suicidaire lors de l'adolescence doit être prise extrêmement au sérieux et doit faire l'objet d'une évaluation par un professionnel du champ de la santé mentale. Donc c'est fréquent les idées suicidaires, mais il faut en aucun cas les banaliser puisqu'elles doivent être accompagnées et elles doivent être comprises.
Un adolescent me parle de ses envies suicidaires, est-ce que je dois lui conseiller de consulter à tout prix ?
Alors une des premières choses, c'est qu'il reste pas seul avec ça, donc il en parle autour de lui. Et effectivement, dans la grande majorité des cas, je pense qu'il aurait besoin de pouvoir voir un professionnel du champ de la santé mentale de préférence, mais ça peut être un médecin traitant, ça peut être un éducateur, ça peut être un infirmier scolaire. En tout cas, qu'il ne reste pas seul avec ses idées suicidaires.
Est-ce qu'on peut soigner un jeune qui est atteint d'un tel désespoir ? Est-ce que les pulsions suicidaires peuvent disparaître si tant est qu'il va consulter assez tôt ?
Oui, alors absolument. Quelqu'un qui a des idées suicidaires, jeune ou moins jeune, peut tout à fait être guéri, entre guillemets, c'est-à-dire ne plus avoir d'idées suicidaires. Au fond, il y a des études qui montrent que quand on prend en charge les gens qui ont fait un geste suicidaire, ils sont dans la grande majorité des cas plutôt contents d'être en vie après, et plutôt remerciant par rapport aux soins qu'ils ont reçus. Donc c'est une période, c'est une phase de crise qui est à prendre au sérieux, qui est à prendre en charge, mais au fond, les gens s'en sortent plutôt bien après coup. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des récidives, des rechutes, et les gens peuvent être amenés à refaire un geste suicidaire. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, plus rapidement on le prend en charge et mieux c'est.
Qu'en est-il des adultes, des personnes plus âgées, elles aussi atteintes de pulsions suicidaires ? Est-ce qu'on peut les aider aussi bien qu'on le fait avec les jeunes ?
De manière générale, oui, on peut leur apporter de l'aide. Il y a moins d'impulsivité, au fond, dans une population adulte et d'âge avancé. Par contre, souvent, c'est des gestes plus déterminés, donc avec des moyens létaux un peu plus violents. Donc oui, on peut les aider. Au fond, quand c'est dans une population adulte, on sait que le suicide est le résultante, malheureusement, de troubles psychiatriques graves, tels que la dépression sévère ou le trouble bipolaire, où les patients vont être amenés à pouvoir faire un geste suicidaire. Mais bien sûr, on peut avoir un impact et on les prend en charge de manière similaire à un adolescent.
En situation d'urgence, que ça concerne un jeune ou une personne plus âgée, que faut-il faire en situation d'urgence, quand le geste semble imminent ?
Quand le geste semble imminent ou est en train de se faire, il faut appeler de l'aide très rapidement, donc le 144 ou la centrale de traitement des médecins de garde, ce qu'on appelle la CTMG, ou la police. Au fond, les numéros d'urgence absolue, il faut les joindre, qu'on soit proche ou pas proche, puisqu'il y a des gens qui font des gestes suicidaires et qui nous contactent aussi directement. Et en cas d'urgence, on peut aussi contacter de manière directe pour le canton de Neuchâtel, le centre d'urgence psychiatrique.
Un mot sur le débat de société en cours sur l'aide au suicide. Il y a le cas de cette Jacqueline Jeanquel, cette Française qui ne se voit pas décliner dans la vieillesse et qui clame haut et fort son envie de mettre fin à ses jours un jour ou l'autre, l'année prochaine ou dans deux ans. Est-ce que ce débat de fond sur la fin de vie est un débat important, utile, ou est-ce qu'au contraire il parasite vos efforts de prévention ?
Alors c'est une question importante, je dirais que c'est complexe puisqu'on ne parle pas de la même chose. Au fond, le suicide est une résultante d'une souffrance psychique majeure, mais qui appartient à la question de la souffrance psychique. L'aide au suicide et le suicide assisté, qui n'est pas un terme vraiment approprié puisqu'on ne parle pas de la même chose, appartient plus à un débat de société auquel moi, en tant que psychiatre, je peux contribuer, mais pour lequel je ne peux pas vous donner un avis ici maintenant. Par rapport à la question du parasitage, oui, ça peut avoir une influence au fond sur le débat, reste que ça appartient à nous en tant que professionnels du champ de la santé mentale de clarifier certaines données, de clarifier de quoi on parle exactement. Par contre, ça reste deux choses qui sont différentes. Le suicide et l'aide au suicide est quelque chose qui n'est pas similaire et dont les débats sont quand même assez séparés. Donc les campagnes de prévention actuelles et dont on parle maintenant ciblent vraiment le suicide et n'est pas de l'apanage de l'assistance au suicide.
C'était Stéphane Saillant, médecin psychiatre au centre neuchâtelois de psychiatrie. On le rappelle, les principales ressources d'aide en Suisse romande, c'est pour le téléphone, la main tendue au 143 et la ligne d'aide pour jeunes pro juventute au 147.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on revient sur la polémique historique du moment à Neuchâtel, soit le changement de nom de l'espace Louis Agassiz, un espace situé devant la faculté des lettres de l'université, c'est au bord du lac. Plusieurs voix issues des milieux académiques et intellectuels critiquent dans la presse ou sur les réseaux sociaux une décision jugée démagogique des autorités. Alors rappel des faits avant d'en parler avec Marcel Neuenschwander.
Vendredi dernier, les autorités de la ville ont annoncé vouloir rebaptiser l'espace Louis Agassiz du nom de Thilo Frey, femme métisse et première neuchâteloise élue au Conseil national en 1971. Une mesure jugée exceptionnelle par le Conseil communal. L'exécutif estime en effet que l'honneur accordé jusqu'ici à Louis Agassiz dans l'espace public doit être reconsidéré. Le naturaliste du 19e siècle, au retentissement mondial et fondateur de l'Université de Neuchâtel, ne s'est pas seulement illustré en glaciologie ou dans l'étude des fossiles. Louis Agassiz était aussi un des plus importants racistes scientifiques du 19e siècle, considéré aujourd'hui par des recherches récentes comme un précurseur de la pensée raciale nazie et de l'idéologie ségrégationniste et d'apartheid. Le retrait de son nom au profit de Thilo Frey répond notamment à une interpellation du groupe Pop Versol. La ville y voit un contre-pied à la montée de l'intolérance, de la xénophobie et du racisme dans plusieurs régions du monde.
Et avec nous pour en parler, Jean-Pierre Gelmini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, bien connu des Neuchâtelois et auteur de livres d'histoire. Alors on vous doit, dans les années 80, l'appellation Louis Agassiz pour cet espace situé devant la faculté des lettres de l'université de Neuchâtel. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la décision des autorités de la ville avec l'accord du rectorat de l'université ?
D'abord, je souhaiterais dire deux mots du moment où j'ai désigné Agassiz comme le titulaire de cette place. En fait, cette place venait d'être construite avec la nouvelle faculté des lettres et elle n'avait pas d'adresse. J'ai songé que la rue Agassiz, qui est un tout petit tronçon de rue situé à l'est de l'école de commerce, n'avait plus d'adresse postale. Plus personne n'y habitait et je me suis dit qu'il fallait, si on veut, regonfler cette réputation d'Agassiz. Et j'ai proposé, avec succès apparemment, aux autorités de donner ce nom, qui en plus était le nom d'un professeur et d'un homme qui était aux sources de l'université ou de l'académie, pour parler juste, en 1838-39. Et j'ai proposé ce nom et on l'a adopté à l'unanimité. Il n'y a pas eu de discussion à l'époque. Maintenant, bien sûr, à l'époque, j'avais entendu des mots sur le racisme d'Agassiz. Et ce racisme d'Agassiz finalement m'était apparu un peu comme un racisme ordinaire, comme on en avait beaucoup d'exemples au 19e siècle. Enfin, une sorte de nœud de noyau de résistance au darwinisme. Et je voyais simplement Agassiz comme un fixiste attaché à la doctrine opposée à celle de l'évolution.
Jean-Pierre Gelmini, vous dites « je voyais ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez autre chose ?
Oui, dans l'intervalle, j'ai évidemment... je me suis renseigné. Et quand je lis évidemment les articles de Louis Agassiz, les écrits de Louis Agassiz sur le racisme, je constate que ce n'est pas un raciste ordinaire ou un raciste passif, un raciste qui ne fait que être raciste. C'est un raciste proactif. C'est un raciste qui fait du prosélytisme. Sa théorie de la polygénèse, c'est-à-dire de la naissance des hommes dans des lieux bien déterminés avec des graduations entre les différentes races, fait que, évidemment, je me pose beaucoup plus de questions aujourd'hui que je ne m'en suis posé alors. Le problème avec cette théorie, ou pas le problème, mais plutôt ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que les Noirs sont aussi considérés comme des hommes par Agassiz, mais ce sont des hommes inférieurs. Et par exemple, s'ils s'opposent, semble-t-il, vigoureusement à l'esclavage, c'est qu'ils continuent à penser que le blanc ne doit pas exploiter le noir parce que tous les deux sont des hommes, mais de niveaux différents.
Donc, vous mettez de la nuance dans ces théories qui ont évidemment inspiré des solutions politiques dramatiques par la suite. Vous nous dites aujourd'hui, je reconsidère la question, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas proposé ce nom-là à cet espace, c'est ce que vous nous dites ?
Je ne sais pas, c'est l'esprit de l'époque aussi. J'étais à cette époque dans une admiration complètement béate de l'œuvre d'Agassiz. C'est tout de même un des grands noms neuchâtelois qui a été reconnu aux États-Unis, où il est une personne personnalité nationale, où on lui a fait des funérailles nationales, Agassi était pour moi indiscutable.
Et même dans votre livre sur le millénaire de Neuchâtel, vous mettez une entrée hein, pour Louis Agassi, évidemment, il est incontournable. Mais là déjà, hein, on vient vous chercher avec ce profil très controversé de ce scientifique, et là, vous souhaitez pas rentrer en matière sur cette polémique.
Effectivement, la chose est un peu différente, parce qu'on m'interpelle une fois que le livre est fini, une fois que le livre a paru, et c'est difficile de revenir sur cette notion, même si j'avais fait une déclaration pour regretter de n'avoir pas évoqué simplement cet aspect de la vie d'Agassi, il était difficile de faire quoi que ce soit. Si j'avais eu un tout petit peu plus d'ouverture avant, si j'avais été interpellé avant, j'aurais ajouté une ou deux lignes à ce petit article de 10 lignes pour dire qu'il y avait cet aspect, cette face sombre d'Agassi.
On le comprend bien, Jean-Pierre Gelmini, vous faites une forme d'amende honorable. Que pensez-vous, malgré tout, de ce que a décidé la ville, à savoir rebaptiser l'endroit du nom de Thilo Fraisse, cette conseillère nationale ?
Alors, c'est une décision politique. Je ne vais pas la mettre en cause. Elle a été prise par les politiciens qui assureront leurs responsabilités. Je ne suis pas sûr que le nom de Thilo Fraisse soit le plus adapté à l'espace Agassi qu'on avait nommé précisément parce qu'il est le siège de l'université. Il faut se rappeler qu'il y a un seul numéro à l'espace Louis Agassi, c'est l'université. Je respecte et je suis ravi que Thilo Fraisse ait maintenant une reconnaissance officielle, mais je pense qu'on ne doit pas jeter Agassi avec l'eau du bain, si vous me permettez. Il faut maintenant rétablir une certaine vérité dialectique dans laquelle on ne supprime pas Agassi, mais on le met en question.
Vous l'avez rappelé, l'espace Louis Agassi n'est pas qu'une plaque posée sur une place au niveau géographique, matériel. C'est aussi une adresse postale. Le fait que le rectorat de l'université, l'université de Neuchâtel, accrédite la solution politique qui vient d'être décidée, pour vous, c'est quoi ? C'est bien vu de la part de l'université qui, quelque part, sauve ou préserve sa renommée ? Ou est-ce qu'au contraire, l'université, en acceptant de rebaptiser cette place, renie son passé ?
Ça va être très difficile de le dire sans avoir assisté au débat du Sénat ou du rectorat. Je ne sais pas ce qui a poussé le rectorat, laquelle des deux versions a poussé le rectorat à accepter. J'ai été personnellement étonné, mais peut-être y a-t-il eu une résistance qui, finalement, s'est effritée devant la volonté politique de le faire. De la même manière que je ne discute pas la décision du conseil communal, je ne discute pas de la décision du rectorat. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin.
Et par rapport à la logique historique qui est en jeu, que pensez-vous de ce qu'affirment les autorités de la ville de Neuchâtel, toujours elles, qui s'empressent dans leur communiqué de préciser qu'il n'est pas du tout envisagé de renommer d'autres places, d'autres rues, et pourtant, si on parle de certaines figures qui ont donné leur nom à des lieux emblématiques de la ville, il y aurait de quoi redire. Est-ce que là, on a ouvert une boîte de Pandore ? Est-ce que vous comprenez cette logique ?
Je la comprends, parce que, vous savez, en histoire, on se méfie toujours de ce qu'on appelle l'anachronisme psychologique, c'est-à-dire on ne juge pas avec la pensée d'aujourd'hui, la pensée du XVIIIe siècle. Alors, ce qui a fait que Duperrou, Purie, Demeuron ont construit leur fortune avec le travail des esclaves, peut être mis au bénéfice de cet anachronisme psychologique. En revanche, avec Agassi, la question est beaucoup plus grave. C'est un naturaliste, c'est un homme de grande réputation, c'est un savant réputé aux États-Unis et il promeut le racisme en quelque sorte. Donc c'est un racisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, proactif, un raciste qui engage à l'être. Tandis que Purie, et je comprendrais qu'on s'arrête là, parce que autrement, alors on entre dans une spirale qui ne va jamais s'arrêter.
À choisir, vous auriez préféré finalement qu'on trouve la même solution et pour l'espace Agassi, et pourquoi pas à l'avenir pour une place Purie, à savoir expliquer plutôt que d'enlever, c'est-à-dire mettre par exemple des indications, quitte à ce que ce soit avec du numérique, peu importe le support, mais qu'on explique plutôt qu'on enlève.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on peut garder la place Purie, l'hôtel du Pérou, il porte le nom de son créateur, on ne peut pas le lui enlever. La place Purie est une dénomination publique, mais on peut aussi, sur la place Purie, instaurer une petite plaque d'explication qui rappelle que de Purie, qui a légué une fortune colossale à la ville de Neuchâtel, tel, l'a établi en faisant travailler des esclaves à une époque où finalement l'esclavage n'était pas encore fondamentalement remis en question. On est quand même il y a 2 siècles et demi.
D'un point de vue plus général, au vu des revirements que ça peut créer dans l'histoire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux renoncer tout bonnement à appliquer des noms de personnes aux rues ou aux places pour éviter ces disputes ?
C'est une bonne question. Quand j'étais en charge au musée d'histoire de Neuchâtel, je me suis donné la peine de trouver des noms de places qui avaient un sens. La place du Mont-Blanc, l'esplanade du Mont-Blanc, par exemple, on m'a dit, mais on ne va pas singer les Genevois en appelant ça l'espace du Mont-Blanc. En fait, c'est l'hôtel qui est actuellement la Banque cantonale s'appelait Hôtel du Mont-Blanc. Le quai qui est actuellement quai Philippe Godet s'appelait quai du Mont-Blanc. En donnant le nom d'esplanade du Mont-Blanc, on ne faisait que respecter une vieille tradition de châteloise. Et quand vous vous mettez dans l'axe diagonal de l'esplanade du Mont-Blanc, vous avez le Mont-Blanc devant vous. Donc, ce n'est pas usurpé. J'ai aussi pris soin de donner des noms, de prendre tous les noms des conseillers fédéraux neuchâtelois de la ville pour leur donner un nom de rue. Par exemple, le quai Ernest Borel. C'est un petit quai qui n'a pas d'habitation, mais le nom d'Ernest Borel, qui était le seul auquel on n'avait pas fait cet honneur, je lui ai fourni une place. Donc, je suis plutôt d'avis que les hommes de valeur méritent un honneur, mais tout en étant prêt à en discuter la nature, une fois qu'on découvre certaines choses qui n'étaient pas claires au départ.
Et pour terminer, un petit clin d'œil quand même aujourd'hui de l'actualité, avec une plaquette qui a été inaugurée tout à l'heure à la Faculté des Sciences, une plaquette qui honore la mémoire d'Émile Argan, un autre scientifique neuchâtelois début 20e, Émile Argan, géologue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là, comme ça, en passant sur cette figure ?
Je ne sais pas grand-chose de la vie d'Émile Argan, qui a quand même été moins célèbre qu'Agassi en raison de la découverte de certaines découvertes fondamentales faites par Agassi. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir honoré Émile Argan. Et je pense qu'il faudra être prêt, si un jour on découvre qu'Émile Argan nous a caché quelque chose, à remettre la chose en question et à l'expliquer aux gens.
Jean-Pierre Gelmini, merci infiniment d'être venu dans Place Publique. Vous êtes historien et auteur de livres d'histoire. On vous souhaite bien sûr une bonne soirée et à bientôt.
Merci à vous.
Place Publique. Et il est temps d'accueillir Norbert Vallet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pasteur de 63 ans pour l'église évangélique de l'Arc Jurassien. Vous exercez notamment dans les montagnes neuchâteloises et dans le Jura bernois. Et vous faites depuis 3 semaines, il faut le dire, la une de la presse romande. Dimanche dernier encore, dans le matin dimanche, les lecteurs pouvaient voir, découvrir votre portrait en pleine page. C'est que votre histoire marque les esprits. Vous avez été condamné à 1000 francs d'amende avec sursis, à 250 francs de frais de procédure. Vous êtes coupable d'avoir hébergé et nourri un réfugié togolais en fin de droit. De plus, les circonstances de cette affaire font qu'on en parle d'autant plus. Elles étonnent. La police neuchâteloise qui est venue vous trouver pour un interrogatoire durant un culte au Locle, vous invitant à les suivre immédiatement. Alors, on va en parler, Norbert Vallet, de ce choix que vous avez fait. La loi, elle est claire, la loi sur les étrangers. Celui ou celle qui facilite le séjour illégal d'un étranger s'expose à une peine, même légère, dans les cas de peu de gravité. Qu'est-ce qui, vous, en tant que pasteur, vous a incité à transgresser la loi dans ce cas précis ?
Eh bien, c'est simplement l'amour du prochain qui nous est inspiré naturellement par l'Évangile, qui veut dire, je le précise, bonne nouvelle. Et simplement, je ne pouvais pas imaginer de ne pas secourir quelqu'un qui était dans la détresse à ce moment-là. Donc, ce qui m'a aussi vraiment personnellement étonné, c'est que lorsque j'ai accompagné cet ami lors de sa dernière visite au service de la population, l'employé lui a dit que s'il était malade, s'il avait un problème, il pouvait aller à l'hôpital et qu'on allait le soigner. Alors je ne pouvais pas du tout imaginer que l'hôpital puisse le soigner et que moi je ne puisse pas l'assister dans sa détresse. D'ailleurs, cet homme a dû être hospitalisé quand il a appris la nouvelle de son refoulement. Et il était dans son état dépressif. Donc toute personne en état de détresse, elle a droit d'être assistée. Donc pour moi, si l'hôpital a le droit de soigner et moi je n'ai pas le droit d'exercer la miséricorde, on est dans un cas flagrant d'un hôpital qui se moquerait de la charité.
Alors pour vous, donc, il faut distinguer ce qui relève du devoir d'assistance. Vous nous avez décrit la situation. Est-ce qu'il reviendrait, c'est peut-être ça que dénonce la loi, ou condamne la loi avant tout, ce qui reviendrait à exploiter la vulnérabilité des migrants pour en tirer profit?
Ah ben, il faut faire une différence entre les gens qui abusent de la misère des autres et qui se font un argent sur leur dos, de quelqu'un qui apporte la miséricorde. Si on revient sur l'origine du texte biblique qui nous pousse à aider son prochain, c'est justement intéressant, c'est un discours entre un docteur de la loi et Jésus. Et le docteur de la loi demande qu'est-ce qu'il faut pour faire pour être sauvé. Alors Jésus, il dit, voilà, tu aimeras ton prochain, etc. Il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est le docteur de la loi qui répond, aimer son Dieu et son prochain comme soi-même. Alors après, Jésus lui dit, ben c'est bien, fais ça. Après, le docteur de la loi lui pose une question, je ne sais pas pourquoi, en lui demandant qui est mon prochain. Alors il lui raconte toute l'histoire du bon samaritain, quelqu'un qui était dans la misère, qui était au bord de la route, qui était blessé. Et puis, il y a, c'est intéressant, deux hommes d'église, si on peut dire, puisqu'il y a un prêtre, et puis on pourrait dire aujourd'hui, si on contextualise le sacristain, qui passent à côté et qui ne font pas leur job. Et bizarrement, c'est un étranger qui vient prendre soin. Aujourd'hui, voilà, j'entends.
Norbert Vallet, on comprend bien la logique, elle est totalement fidèle à l'éthique chrétienne, aux principes qui fondent votre foi. Néanmoins, on est dans un système qui doit fixer des limites. Où c'est que vous posez la limite? On entend souvent hein, cette phrase qui peut-être vous révolter, mais la Suisse ne peut pas accueillir tout le malheur du monde.
On est d'accord. Moi, je pense bien que la Suisse ne peut pas accueillir le malheur du monde. Et moi, je ne suis pas responsable pour le malheur du monde entier. Les politiciens, les États et Dieu lui-même est responsable pour le malheur du monde. Par contre, moi, je suis responsable de la personne que je rencontre, quelle qu'elle soit. Et mon prochain ne se définit ni par sa couleur de peau, ni par la couleur de son passeport, ni même par sa religion. Il a droit à mon secours parce qu'il est mon prochain.
Alors, il y a une notion de circonstance, de contexte précis. Vous rencontrez quelqu'un, vous l'aidez. Est-ce que vous allez jusqu'à appeler vos fidèles ou quiconque à être zélé en la matière?
Écoutez, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu qui nous dit « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Donc chacun est responsable de la manière avec laquelle il va faire le bien. La deuxième chose, si je reviens encore à la Constitution fédérale, qui commence par ces trois mots « au nom du Dieu Tout-Puissant ». Donc elle me légitime d'autant plus savoir si Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est d'accord avec la loi que la Confédération a établie, c'est une autre histoire.
Alors on le comprend parfaitement, vous combattez cette condamnation dont vous faites l'objet, vous ne comptez pas en rester là, vous allez rencontrer la procureure qui va entendre les parties au mois d'octobre, vous êtes prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Est-ce que vous avez pris un avocat ou est-ce que votre ligne qui est limpide?
J'ai pris un avocat, naturellement, parce que je pense que c'est toujours bien de pouvoir se faire accompagner de spécialistes du droit, même si le droit, parfois, n'est pas si droit qu'il n'y paraît.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette procédure qui peut être non seulement longue, mais aussi coûteuse?
Eh bien, écoutez, moi, je pense que au moment où la France, le pays des droits de l'homme, qui a aussi aboli ce fameux délit de solidarité en regard de sa devise, et le troisième élément de sa devise qui signifie liberté, égalité, fraternité, j'imagine aussi que le pays d'Henri Dunant, je signale juste en passant qu'Henri Dunant était le premier secrétaire de l'Alliance évangélique que j'ai présidé. Alors je ferais offense à Henri Dunant si je ne continuais pas à vivre selon ses principes.
Votre histoire a été largement médiatisée, de quoi, on l'imagine, déclencher de nombreuses réactions de soutien, mais pas seulement.
Bien sûr, il y a des gens qui réagissent, qui me disent, par exemple, il y a assez de Suisses à idéologues, par exemple. Bien sûr que j'ai n'importe qui a besoin, j'essaye du moins. Je fais même un appel maintenant à un patron peut-être potentiel qui pourrait aider quelqu'un qui cherche un travail de cuisinier et qui, en raison de circonstances difficiles de sa vie, a une difficulté de trouver ce travail, tout simplement parce qu'il y a des difficultés dans la santé.
C'est C'est vrai que c'est un reproche que des commentaires nous font souvent. En tant que médias, quand on répercute une action en faveur soit de réfugiés, de requérants, certains nous disent que c'est une aide aux dépens des Suisses défavorisés. Comment vous répondez à ce genre de reproche ?
Je ne peux pas choisir. Un être humain est un être humain. Et personnellement, je trouve un peu étrange qu'on nous condamne pour faire le bien. Il faudrait aussi s'attaquer à la Société protectrice des animaux parce qu'ils accueillent des chiens et des chats qui sont abandonnés et sans papier. Et on ne les condamne pas.
Norbert Vallet, comment vous voyez la suite pour vous ? Est-ce que pour vous, cela doit déboucher sur une action collective ? Comment vous voyez la chose ? Vous n'êtes pas le seul qui est condamné pour ce motif.
Je ne suis pas le seul. Comme je l'ai dit, il y avait une personne qui était condamnée qui n'a pas osé faire recours parce qu'on lui a dit « ça va te coûter trop cher ». Ça voudrait dire quoi ? Que la justice se fait selon la richesse des gens qui sont accusés. Je trouve que tout le monde doit être traité à égalité. Et puis, ce n'est pas seulement les gens qui ont de l'argent qui devraient pouvoir se défendre. Et moi, je vais aller aussi loin que je pourrai pour ça.
Norbert Vallet, merci beaucoup d'être venu dans Place Publique pour nous parler de votre combat en lien avec ces condamnations. On suivra évidemment la suite de cette affaire. On vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Place Publique.